Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Le Brésil suspendu au sort de Dilma Rousseff. Les députés votent pour ou contre la procédure en destitution de la présidente du pays. Des écrans géants ont été installés à Brasilia pour permettre aux citoyens de suivre ce vote historique. Nous serons avec notre correspondant Bertrand Galichet au début de ce journal. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur le geste inattendu du pape hier, rentré de sa visite à Lesbos avec 12 réfugiés syriens. Et nous verrons qu'à l'opposé, l'Europe n'est pas si prête à l'ouverture. Elle continue à se durcir sous l'égide du président hongrois. Viktor Orban vient de présenter un plan d'action explicitement contre les migrants. Enfin, Mahmoud Abbas poursuit sa tournée en Europe. Le président de l'autorité palestinienne milite pour l'adoption d'une résolution à l'ONU afin de stopper la colonisation israélienne. La police est en état d'alerte ce dimanche au Brésil. Le pays attend dans la fièvre le résultat du vote des députés. Ils doivent demander ou non au Sénat d'ouvrir formellement un procès en destitution de la présidente du pays. Dilma Rousseff est accusée par l'opposition de maquillage de ses comptes publics lors de sa campagne électorale il y a 2 ans. À Brasilia, la correspondance de Bertrand Galichet.
Pour Dilma Rousseff, c'est la journée de tous les dangers et celle du dernier espoir. Si l'opposition, qui l'accuse d'avoir manipulé les comptes publics, parvient ce soir à réunir les 2/3 des voix, 342 députés, la procédure de destitution suivra son cours devant le Sénat le mois prochain. Il suffirait alors d'un vote à la majorité simple des sénateurs pour prononcer la mise en accusation de la présidente brésilienne et l'écarter du pouvoir. Autant dire que jusqu'à la dernière minute, Dilma Rousseff ne ménage pas ses efforts pour tenter de rallier les députés susceptibles de faire échouer ce scénario. Dans le camp opposé, mené par son ennemi juré, le vice-président Michel Temer, et par le président de l'Assemblée, Eduardo Cunha, on travaille au corps les élus indécis. Après le vote successif cet après-midi de chacun des députés, le résultat devrait être connu dans la soirée. Un suspense alimenté par les manifestations géantes, prévues aujourd'hui dans les principales villes du Brésil. Ici, dans la capitale, une barrière de 2 mètres de haut, longue d'un kilomètre, séparera partisans et adversaires de Dilma Rousseff.
La terre a tremblé cette nuit en Équateur, séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la côte nord-ouest. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Selon la vice-présidence du pays, il y a maintenant 77 morts et 588 blessés. Le président Hollande poursuit aujourd'hui son déplacement officiel au Liban avant de prendre la route de l'Égypte ce soir. Hier, il a promis une aide militaire et humanitaire supplémentaire à Beyrouth pour les réfugiés qui représentent un quart de la population de ce pays. La France contribuera à hauteur de 100 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Un geste surprenant du pape François hier à Lesbos en Grèce, alors qu'il allait soutenir les réfugiés et appeler l'Europe à redevenir une terre d'intégration. Il a ramené dans son avion 12 réfugiés syriens, 3 familles bloquées sur l'île grecque depuis plus d'un mois. Une décision tenue secrète jusqu'à la toute dernière minute, mais très bien préparée, Mathilde Imberti.
Montrer l'exemple en accueillant au Vatican 3 familles syriennes. L'idée a été proposée au pape François par l'un de ses collaborateurs il y a une semaine. « J'ai tout de suite accepté », raconte le souverain pontife. Le Vatican assurera financièrement le maintien de ces 12 personnes et avec l'aide de la communauté de Sant'Egidio, structure catholique spécialisée sur les questions humanitaires et diplomatiques, il visera l'objectif de les intégrer à la société. Car le pape le reconnaît, il faut être vigilant sur ce point.
Je comprends les gouvernements et aussi les peuples qui ont peur. Nous devons faire preuve d'une grande responsabilité en accueillant ces personnes. Et l'Europe doit mettre en place des politiques d'accueil, d'intégration, de croissance et de travail.
Les leaders politiques ne se sont pas bousculés pour commenter ce nouveau geste surprise et historique du pape François. Tout juste l'extrême droite de Matteo Salvini, la Ligue du Nord, lui a-t-elle fait remarquer qu'il n'était pas nécessaire de ramener des migrants en Italie, qu'il existe aussi des pauvres en bas de chez lui.
Et à l'opposé de l'attitude d'ouverture proposée par le pape, vendredi à Lisbonne, lors d'une réunion de l'internationale des partis centristes et chrétiens démocrates, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a présenté un plan d'action pour défendre l'Europe contre les arrivées de migrants. Les détails de ce plan, intitulé Schengen 2, ont été publiés hier sur le site web du gouvernement hongrois. Un plan qui reflète la ligne dure adopté par Viktor Orban. Le chef de la droite hongroise refuse catégoriquement que son pays participe à l'accueil des réfugiés. Florence Labruyère.
Le plan en 10 points de Viktor Orban vise à faire de l'Europe une forteresse contre les migrants. Il propose que la gestion des demandeurs d'asile se fasse désormais en dehors de l'Union européenne, dans des hotspots contrôlés et isolés. Actuellement, il existe des hotspots en Italie et en Grèce. Le chef du gouvernement hongrois suggère aussi d'identifier les réfugiés grâce à des systèmes biométriques. Par ailleurs, il dresse une liste de pays sûrs vers lesquels on pourrait rapatrier des demandeurs d'asile. La Hongrie a déjà décidé que la Serbie était un pays sûr, ce que nie l'Organisation des Nations Unies. Mais cela permet à Budapest de se débarrasser des réfugiés en les refoulant vers Belgrade. Dans ce plan, Viktor Orban réaffirme son refus de relocaliser quelque 2000 réfugiés sur le sol hongrois. La répartition des réfugiés dans plusieurs pays européens a pourtant été votée à la majorité par les pays membres. Mais la Hongrie refuse ce plan contraignant. Elle a porté plainte en décembre devant la justice européenne et espère se dégager de cette obligation. Viktor Orban veut d'ailleurs consulter les Hongrois par référendum sur cette question. « Si nous n'arrêtons pas Bruxelles avec ce référendum, » a martelé le Premier ministre hongrois, « on va nous imposer des masses de gens avec lesquels nous ne voulons pas cohabiter. »
Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas est actuellement en Europe. Il a rencontré avant-hier et hier le président Hollande, mais aussi le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. Mahmoud Abbas est maintenant attendu à Moscou et Berlin. Il se rendra ensuite à New York avec pour objectif de proposer à l'ONU une résolution afin de condamner la colonisation israélienne et de soutenir l'initiative française d'une conférence internationale pour la paix entre Israël et la Palestine, conférence qui pourrait être organisée cet été à Paris. Elias Sambar est l'ambassadeur palestinien auprès de l'UNESCO. Il croit beaucoup en cette tournée du président Mahmoud Abbas et il explique pourquoi à Nadine Epstein.
C'est une tournée très très importante dans la mesure où elle vise à passer par un certain nombre de capitales amies pour coordonner la prochaine phase qui arrive. La prochaine phase, d'une part, le projet de résolution palestinien qui devrait être présenté au Conseil de sécurité visant un point. Un seul, la question de la colonisation et sa condamnation et le fait que toute colonisation est illégale. Deuxième point également très important qui est l'initiative française qui devrait commencer un peu à entrer dans sa phase pratique. Et la troisième chose, essayer de battre le rappel un peu de tous les pays amis qui pensent que la situation présente est intolérable et qu'il est temps d'entrer sous l'ombrelle de la légalité et des principes internationaux.
Quand bien même cette résolution serait prise au Conseil de sécurité de l'ONU, en quoi ça débloque quoi que ce soit ?
Elle ne débloque pas, mais la résolution que nous visons de faire adopter permettrait de redemander régulièrement au Conseil de sécurité ce qu'il a fait pour que cette résolution soit appliquée. La terre entière dit « ça n'est pas bien » et la terre entière ne fait rien. Donc le but, c'est d'arriver enfin, non plus seulement aux paroles, mais à quelques actes. Si vous regardez bien sur le terrain, les autorités israéliennes viennent de passer à une vitesse supérieure en termes de colonisation, comme s'il y avait une tentative de ne pas se laisser surprendre par une condamnation différente des précédentes. Est-ce quand même ça dit quelque chose ? C'est que nous ne sommes pas complètement dans une espèce de répétition.
Les relations économiques reprennent avec l'Iran. La compagnie aérienne Air France lance ce midi un premier vol à destination de Téhéran, 8 ans après avoir interrompu sa liaison. L'Iran, qui par ailleurs n'enverra aucun de ses représentants à la réunion de l'OPEP à Doha, au Qatar. Les principaux producteurs de pétrole se réunissent ce dimanche pour négocier un gel de la production afin de dynamiser les prix. Le pays estime qu'il ne peut pas se joindre à cette initiative tant qu'il n'a pas retrouvé son niveau de production et d'exportation d'avant l'embargo. Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés à se prononcer par référendum sur la durée de la production des gisements d'hydrocarbures. Le débat fait rage depuis plusieurs semaines en Italie entre les défenseurs de l'environnement, le monde des affaires et le gouvernement pour savoir combien de temps les compagnies pétrolières peuvent exploiter en mer sur des plateformes offshore, les gisements situés à moins de 22 km des plages italiennes. Deux élections partielles également ce dimanche en France. C'est le premier tour des législatives dans la troisième circonscription de la Loire-Atlantique pour désigner le successeur du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Et puis dans la Meuse, le Front National doit remettre en jeu le canton de Saint-Mihiel, le seul remporté au départemental en Lorraine. Élection annulée pour cause d'irrégularité. La météo de votre dimanche est nuageuse et pluvieuse, notamment sur la moitié sud-est. Temps plus clément au nord-ouest, mais les températures sont fraîches. Elles alternent entre 1 et 5 degrés. Il fera 6 à 10 degrés partout ailleurs. 11 à 14. 14 près de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 18 et 22 degrés. Il fera 10 à 14 degrés au nord de Paris.